Radio, cité Genève.
Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherova, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch.
Sixtine serait aussi à Venise. Elle participerait à la rencontre d'influenceurs. Il avait à la fois envie et peur de la revoir. Ils étaient sortis ensemble pendant un an. Une seule année d'amour. Ils s'étaient finalement séparés en Italie, à Bergame. Elle ne l'aimait plus. Elle jurait qu'elle n'avait rencontré personne. Tu es extraordinaire, mais quelque chose ne fonctionne plus. Je ne comprends pas ce qui arrive. Ce n'est pas toi, c'est moi. 3 semaines plus tard, elle s'était mise en couple avec un influenceur fitness qui était un peu philosophe, un peu chaman, un peu théurge. Il vendait des formations de yoga aquatiques. Sam ne pouvait rien faire contre un influenceur fitness, ni contre la consomption de leur amour. Citation en page 15 du tout nouvel ouvrage 2024, La dernière chambre du grand hôtel Abîme, aux éditions FAF de Quentin Mouron. Le Radio Littéractif a le plaisir et l'honneur d'échanger avec l'auteur. Quentin Mouron, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes sur une terrasse de café à Genève, il fait encore beau. Et nous allons échanger sur quelque chose de moins beau, si je peux me permettre. Votre ouvrage est une formidable critique sociale, moderne, voire post-moderne, sur les rapports humains et sur l'image de soi, à travers un jeu de couple, sans jugement, en exposant simplement des sortes de crises existentielles, mais qui sont liées justement à l'image de soi. Donc c'est une réunion d'influenceurs qui vont à Venise, et on a affaire à deux couples. Nous avons d'un côté Sam, Sixtine, qui viennent de se séparer, et d'un autre côté Lola, Hugo, qui se sépare également. Mais on apprend au décours de la lecture que Sam a une petite affaire avec Hugo, mais que Hugo est plus amoureux de Sam que Sam de Hugo. On apprend également que Sixtine s'est remise avec un autre personnage qui est Rocco. Et puis finalement, ce jeu de couple qui se défait, se refait, se constitue, se déconstitue, se passe à travers l'image sociale de ses influenceurs. Donc les réseaux sociaux et l'image de soi, jusqu'où l'image est quelque chose de ressourçant, de médiatisant, jusqu'où on devient finalement victime de son image. Je pourrais dire que c'est un peu le fil rouge. Comment, puisque c'était déjà le cas dans d'autres romans pour vous, cet intérêt sur les médias et l'image de soi, comment vous tissez ce fil? Qu'est-ce qui vous intéresse tellement?
D'abord, l'amour est toujours un peu le bordel. Je crois que ce qui m'a intéressé le plus, c'est de se demander comment l'image intervenait dans nos rapports amoureux. Parce qu'on a l'impression que l'amour, c'est le plus intime, c'est-à-dire le plus personnel. Et en réalité, quand on prend le temps de réfléchir sur d'anciennes relations, on se dit que, peut-être que beaucoup d'images se sont glissées entre le sujet et l'objet, entre le sujet transi d'amour et l'objet de nos feux, pour parler un peu comme au Moyen-Âge. Et je pense que c'est ça qui m'a intéressé, c'est de se dire qu'est-ce qui s'accumule, qu'est-ce qui se sédimente en termes d'images entre deux personnes qui s'aiment. Et à partir de là, naît quelque chose, naît une confusion d'abord, parce que je pense que l'amour souvent est confusion. Et puis de cette confusion, des rapports émergent, des rapports changent, des rapports se modifient, parce que je pense qu'à la fois l'amour est confusion, mais il est aussi modification. Et c'est dans cette modification que j'ai voulu m'engouffrer, pas tellement comme un critique surplombant, mais aussi comme un amoureux confus, et sans doute un peu transi parfois.
Alors, très belle image, hein, l'amoureux transi, confus, la confusion des sentiments, on pourrait résumer cela ainsi, alors que c'est beaucoup plus étoffé dans votre ouvrage, bien entendu. Il y a ce rapport Sam-Sixtine qui est très particulier, et Sixtine-Rocco, qui, je pourrais dire, sédimente tranquillement, mais de façon crescendo, le problème de la violence entre les gens qui s'aiment, la violence qui peut devenir physique. Parce qu'à un moment donné, les personnages qui se séparent, vont avoir des gestes ou de défense pour défendre l'être aimé, ou alors pour se le garder, cet être aimé, de violence. Et donc il y a aussi ce fil rouge dans votre ouvrage sur la violence entre les hommes et les femmes. Et la frontière, vous l'analysez de façon tout à fait subtile et intéressante, elle est finalement ténue.
Je suis content que vous en parliez parce que en réalité, je pense que beaucoup, et je veux renvoyer personne à son essence, mais je trouve que les critiques, ou les lectrices d'ailleurs, féminines simplement, ont eu une meilleure approche et une approche beaucoup plus intelligente de ce livre. Là où beaucoup d'hommes ont se sont contentés de voir une satire des réseaux sociaux où on se moque, c'est aussi ça. Mais c'est aussi, je pense, une critique de la violence qui peut non pas avoir lieu sur les réseaux, mais dans les rapports amoureux. Cette violence qui, il faut le dire, est quand même globalement portée par les hommes contre les femmes. On peut avoir plein de contre-arguments, de contre-exemples, surtout. Mais globalement, c'est quand même statistiquement cela qui se passe. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, peut-être dans une forme de critique masculine, a un peu manqué, je dois dire. Parce qu'au début, je me disais, mais c'est super, on me dit beaucoup de bien de ce roman, mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ce que j'ai écrit. Il manque un bout. Y a les réseaux sociaux, j'ai été acide, je vais pas m'en repentir. Mais il y a aussi la question de la violence, notamment qui culmine dans le féminicide. Mais en réalité, pour arriver à l'horreur qu'est le féminicide, il y a des paliers. Il existe, hein, je crois, cette fameuse qui a été produit par des associations féministes, si je me trompe pas, cette espèce de carte des actes qui sont subis par les femmes et qui sont commis par les hommes avec des couleurs où ça passe de vert à rouge, avec toute une manière de graduer les violences aussi, parce que c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans l'hyperbole, il faut graduer les violences. Et je crois que là, on voit aussi ces violences avec leur gradation, avec leur différence, qu'elle soit orale, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique ou qu'elle soit terminale.
Alors, évidemment, chaque personnage traverse une zone, on va dire, trouble qui peut être violente. Celui, évidemment, qui est le plus, on va dire, c'est Rocco, hein, Rocco qui a un contentieux avec la violence envers les femmes. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que vous prenez aussi le pendant, c'est-à-dire la victime potentielle de la violence de Rocco, c'est-à-dire Sixtine. Et on voit très bien comment Sixtine est ambivalente. Hein. Les victimes de violence ne sont pas claires parce qu'il y a ce rapport, ce lien affectif très fort qui fait qu'elles n'arrivent pas très bien à se protéger non plus. Je lis notamment au chapitre 22... Depuis que Rocco était parti, elle pensait douloureusement, elle hésitait sur la conduite à tenir. Elle était partagée entre sa conviction que l'être humain est perfectible, qu'il a le droit au rachat et à l'oubli, qu'il a devant lui l'espace nécessaire pour une conversion qui procède toujours d'une violence infligée à son propre destin. Donc on voit ici que Sixtine, séparée de Rocco, aimerait presque l'excuser, en quelque sorte, et croire à une forme de amélioration de l'être, ce qu'on souhaite tous. Mais quand une fois on a été capable de franchir la limite, apparemment c'est quand même assez difficile de pouvoir rétablir un équilibre.
Je ne veux pas parler à la place des femmes concernées, bien sûr, mais il est clair à mon avis que dans la vie comme dans le roman, et je pense que le roman est l'art qui est le plus proche de la vie, on n'est pas dans un tribunal et on n'est pas non plus dans la recension médiatique d'un tribunal où tout semble extrêmement clair, et les choses ne sont pas claires en réalité. Et si on écoute simplement, moi j'ai pas fait beaucoup de recherches pour ce livre, j'ai simplement parlé à des amis, hein, donc ça reste très instinctif, très empirique, mais tout ce qu'elles m'ont dit était que c'est jamais clair, qu'on a beaucoup de peine à savoir quand commence la violence, et quand elle se termine c'est plus facile, mais quand elle commence c'est très difficile. Moi il y a parfois des récits que j'entends où je me dis mais ça c'est de la violence. Moi je discutais le jour avec une amie qui me disait mais tu sais faut quand même, il n'y a pas d'ambiguïté entre nous, mais fais quand même un peu attention quand tu m'écris, parce que tu sais mon copain il regarde quand même mes messages dans mon téléphone. Et je lui disais mais ça me semble, pour moi, je lui dis, mais moi, si quelqu'un regarde mon téléphone, il n'y a plus d'histoire. Enfin, c'est fini. Pour moi, c'est de la violence. Je pense que pour elle aussi, pour d'autres, peut-être que non. Certains le justifieraient. Et au fond, pour elle, non. Et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Est-ce que je dois lui dire, tu sais, tu es victime de violence? Ou est-ce que je dois lui dire, mais parce qu'à part qu'il regarde dans son téléphone, il a l'air pas trop mal, ce garçon. C'est beaucoup, toujours beaucoup plus compliqué. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut retenir du roman, moi je pratique la chronique, je pratique le poème est entier, parfois même totalitaire. La chronique, parfois, elle est un peu vive, ou elle est même un tout petit peu trop vive, peut-être trop noir ou blanc. Le roman, c'est pas le lieu des nuances, c'est simplement le lieu de la vie qui est toujours complexe. Et moi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je suis un grand lecteur de tragédies. Et prenons Phèdre, comme ça parlera aux auditeurs. Est-ce que Phèdre est coupable d'inceste ou est-ce qu'elle est victime du destin? Probablement les deux. Et c'est-à-dire qu'elle est coupable, mais elle est innocente à la fois. Et je pense que dans ce rapport ambivalent, on le retrouve dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on doit savoir si quelqu'un est coupable ou non, il y a des moments, il y a des lignes rouges qui ont tellement été franchies qu'il n'y a plus de doute. Et puis, il y a toute une zone qui est peut-être la pire, c'est-à-dire que c'est la zone de l'entre-deux où tout ça se marie, où l'innocence voisine avec le crime, où le destin et la nécessité voisine avec la liberté, et où tout ça se mélange, et c'est ça la grande difficulté de vivre, finalement.
Comme vous en parlez bien, de cette frontière, de cette zone grise, Quentin Mouron, c'est tout à fait cela. Et c'est pour cela que le lecteur ne peut pas juger ces personnages. Ils sont en fait exposés dans leur fêlure et dans leur fragilité humaine, on pourrait dire cela comme ça. C'est ce qui fait la force de votre ouvrage. Dans une ambiance finalement postmoderne avec ces réseaux sociaux, qui m'a beaucoup fait penser à l'époque beatnik, hein, d'une certaine manière. Et c'est pas pour rien que vous faites référence continuellement à différents moments à Ferlinghetti, Lawrence Ferlinghetti, poète américain, 1919-2021, qui était la figure de la Beat Generation. Et j'avais l'impression d'avoir des personnages de Beat Generation, mais propulsés dans notre monde contemporain.
Oui, parce que ces personnages de la Beat Generation, je ne suis pas un grand lecteur d'ailleurs de la Beat Generation, j'ai à peine lu Kerouac, c'est pas là-dessus que je circule. Mais en réalité, ce que je sais de ces écrivains de la Beat Generation, c'est qu'ils sont, ils me rappellent moi les surréalistes que j'ai beaucoup lus, qui me rappellent d'ailleurs sur certains aspects les symbolistes que j'ai aussi passablement lus. Et en réalité, cette espèce de vie d'exigence d'une vie totale qui parfois dégénère en une sorte de totalitarisme de l'existence, c'est-à-dire une sorte de vision tellement intègre et complète de la vie que ça finit par devenir une violence simplement, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai peut-être vécu aussi, qui a été peut-être aussi, je crois qu'il y a un romantisme. Et c'est pas une question de génération du tout, je crois que c'est plutôt une question d'individus, voire de milieux sociaux, une sorte de romantisme qui habite ces personnages. Et le romantisme, on en a fait quelque chose d'un peu guimauve, mais on oublie que c'est aussi lié à la mort, à la destruction, à la violence. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé, parce qu'au fond, ces personnages à la fois souffrent beaucoup, et puis en même temps, si on prend un schéma un peu marxisant, un petit peu sociologique, on se dit, bon, c'est tous des privilégiés. Ils ont tous assez d'argent pour partir quand ils veulent en voyage, ils déambulent, ils sont... J'avais envie d'avoir le même rapport avec mes personnages qu'Aragon dans Aurélien, qui est pour moi l'un de mes romans préférés. Parce que Aragon est un communiste patenté, c'est même un compagnon de route du Parti communiste français, qui a l'un des écrivains français à avoir le plus et le plus longtemps défendu Staline. Et en même temps, quand il s'empare dans Aurélien de ces personnages, tous issus de la bourgeoisie, il arrive à leur donner un corps, il arrive à leur donner une âme, et il arrive à leur donner toute la complexité qu'ils méritent peut-être plein de supplices et de punitions, mais ils méritent aussi qu'on les écoute, qu'on les comprenne et qu'on essaye de les lire. Parce que je crois que penser le monde, c'est avant tout le lire.
En tout cas, on a un plaisir incroyable à vous lire, Quentin Mouron, dans La dernière chambre du Grand Hôtel Abîme. Et aussi à être surpris. Vous aimez bien faire effraction chez le lecteur. Il y a cette scène dont j'ai envie de parler qui est absolument incroyable, une sorte de pied de nez fabuleux en lien avec les réseaux sociaux. C'est quand à Venise, où ils ont tous rendez-vous, ces personnages qui sont des influenceurs, ils vont s'y retrouver de manière directe et indirecte. Il y a cette scène où à un moment donné, Hugo, qui a un problème d'alcool par ailleurs, qui souffre énormément, se retrouve sur une place à Venise et voit qu'un migrant est en train de se faire arrêter par la police. Et donc, il fait un geste héroïque, on va le dire, hein. Il essaye de s'interposer entre la police et le migrant. Mais voilà que Sixtine, influenceuse très 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 suivie, observe la scène de loin et aimerait intervenir elle aussi. Et ça renverse complètement la situation, parce que le public reconnaît Sixtine, qui se met à côté d'Hugo, qui se met à côté de ce migrant qui réussit à fuir, puisque toute l'attention alors n'est capturée pas sur le migrant, mais sur les influenceurs. Et la scène finale, ils en arrivent même à se faire prendre en photo avec la police. Donc renversement intégral, c'est un pied de nez fabuleux qui montre que finalement, la médiatisation et les réseaux sociaux peuvent même renverser les situations.
Bien sûr, parce qu'il y a l'idée de la production d'images, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un vrai engagement politique de la part de ces personnages, et puis un engagement qui reste très en surface, c'est-à-dire qui n'est pas un engagement politique au sens militant pur, c'est un militantisme un peu de façade, d'occasion. Et je pense que là, l'image est très importante. On l'a vu avec des influenceurs qui tout à coup se faisaient prendre en photo devant les ruines fumantes quand il y avait eu un tremblement de terre en Turquie. On a vu toutes sortes de gens qui finalement... Et puis, qui s'engagent par occasion, peut-être parce qu'ils ont l'impression que c'est une belle image. Mais il faut aussi le dire, que finalement, qu'est-ce qui nous fait nous engager si ce n'est l'image ? Et je pense que là aussi, il y a quelque chose où il faut être quand même à la fois sérieux et en même temps peut-être un peu empathique. Moi, il m'est arrivé aussi de m'engager, je suis un très mauvais militant par ailleurs, mais je me suis aussi engagé, il m'est arrivé de faire des manifs, j'ai signé des pétitions, j'ai même signé dans un parti, je viens de payer ma cotisation. Mais est-ce que malgré tout, il n'y a pas un peu de l'image ? Est-ce que je n'ai pas finalement moi aussi adhéré aussi parce que tout à coup, il y avait quelque chose comme une belle image ? Et je pense que la force des images, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé par un philosophe comme Didier Huberman, par exemple. Les images qui nous soulèvent, dit-il, parce que finalement, c'est quand même ça, et peut-être même que ça, qui nous fait nous soulever, ce sont aussi des images. Alors, peut-être pas des images superficielles d'un repas ou d'une chambre bien rangée qu'on poste sur les réseaux, mais je crois que l'image, elle n'est pas dévaluée dans mon livre. Elle est simplement mise à sa place, c'est-à-dire comme un puissant moteur d'action qui parfois confine au ridicule, mais qui peut aussi finalement confiner au sublime.
L'image en position critique, hein, qui n'est pas forcément qu'à dénoncer, qui a une fonction dans l'identité, dans la construction des personnages, dans ce qu'ils deviennent et évoluent au cours de votre récit. On pourrait aussi parler de Hugo, parce que je pense que vous avez l'art de brosser le tableau de quelqu'un qui souffre de l'alcoolisme. Votre plume est particulièrement fine à ce propos et contamine le style d'écriture. Dans les moments de fulgurance où Hugo est complètement désorganisé par l'alcool, vous devenez carrément poétique. Le texte devient court, clinique et en même temps très expressif.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai été aussi touché par des spectacles d'alcoolisme. J'ai de la chance d'en être prémuni. J'espère, mais en même temps je bois aussi, donc finalement je suis pas forcément non plus au-dessus de la mêlée. J'ai des amis que ça a touché, et je pense que surtout quand j'ai passé la trentaine, et je pense que ça a été un moment, alors je fais pas un récit en disant je suis très vieux maintenant, simplement il y a la différence, c'est que c'est vrai qu'il y a des comportements qui dans la vingtaine sont, qui concernent la drogue et l'alcool notamment, qui sont plutôt sympathiques, plutôt amusants, plutôt voilà, il y a le bon vivant qui est toujours un peu bourré, qui prend toujours un peu trop de cocaïne. C'est assez amusant. Et puis, quand on passe la trentaine, puis quand on s'enfonce dans la trentaine, déjà là, on voit que c'est plus compliqué parce que, évidemment, le corps n'est plus le même. Donc, en fait, celui qui accepte de faire encore subir ça à son corps régulièrement, c'est qu'il est peut-être engagé dans quelque chose qui ressemble un peu plus à déjà à de la destruction. Alors, ils sont un petit peu plus jeunes que moi, mes personnages. C'est vrai qu'ils sont encore dans leur vingtaine, mais il y a quand même ça qui gagne. Et moi, c'est vrai que j'ai vu ce spectacle-là de gens brillants qui, d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas seulement des sacs à vin, comme on le disait chez Molière, qui ne sont pas seulement des gens qui pompent du soir au matin, mais qui, quand même, ont des discrets tremblements, des envies de boire un peu étonnantes, à des moments peut-être étonnants ou dans des circonstances qui n'appellent pas ça. Et ça, c'est vrai que chez mes amis, j'ai pu l'observer. J'ai eu de la chance d'en être prémuni pour une raison assez simple, c'est que je suis incapable de lire et d'écrire une ligne si j'ai un semblant de gueule de bois. Donc dès que dès que j'ai plus de 3 verres de vin dans le coffre, ce qui est pas beaucoup, le lendemain je ne peux ni lire ni écrire. Donc ça va une fois toutes les 2 semaines, mais ça ne va pas tout le temps parce que c'est quand même ce que je préfère, c'est lire et écrire. Et donc dès le moment où je ne peux plus le faire, ça me rend malade. Donc quand ça me rend malade, je fais ce que font les bobos, c'est-à-dire que je vais marcher dans la nature, dans la campagne, en écoutant Schubert. Et donc finalement, heureusement que j'ai cette exigence-là. Sans l'écriture, je serais un poivreau tout à fait invétéré, parce que c'est vrai que j'aime l'ivresse. Je dois dire que j'aime beaucoup l'ivresse, j'aime être ivre. Je sais pas si on peut le dire sur une radio, mais enfin, c'est pas du tout quelque chose qui pour moi est négatif. Simplement, je la ponctue, j'en fais pas mon ordinaire, parce que simplement, j'aime aussi la littérature et j'aime l'écriture, et que je sais que certains écrivains carburent à beaucoup de substances différentes. Moi, malheureusement, c'est pas un carburant, c'est plutôt ce qui laisse mes ailes et qui me fait tomber.
Tant mieux quelque part. Et donc, à part Hugo qui souffre de ce problème, on se demande aussi pourquoi vous plantez le décor de la rencontre de ces personnages qui ont donc une sorte de session d'influenceurs à suivre ensemble à Venise. Venise, quand même, c'est la ville du rêve, de l'amour, des amoureux. C'est la ville aussi qui se délite, qui est en train de se noyer, vu qu'elle est sur pilotis. Est-ce que ceci fait partie aussi d'une sorte de déliquescence des personnages par moment ? Pourquoi Venise ?
D'abord, j'aime beaucoup votre dernière interprétation et je la ressortirai en faisant semblant que c'était tout à fait voulu, cette idée du délitement et de la noyade. Mais c'était en effet pas mon intention. Je la ressortirai. Mais par contre, Venise, c'est une ville étonnante parce que c'est la ville des amoureux et c'est un roman qui malgré tout aborde le thème de l'amour. C'est la ville des masques et des faux-semblants et c'est un livre qui aborde les images. Et déjà, Thomas Mann, dans Mort à Venise, disait « Finalement, c'est une ville touristique ». Et il ne le disait pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que déjà dans les années 20 ou 30, je ne sais plus de quand date son texte, c'était déjà considéré il y a 100 ans, c'était déjà une sorte de ville des faux-semblants. Et Venise a ce côté-là qui la nourrit, parce que quand on parle du tourisme de masse et de tous les défauts qu'on peut lui trouver, on oublie quand même de dire aussi que c'est quelque chose qui ramène beaucoup d'argent, non pas aux citoyens d'une ville, mais à ceux qui possède dans la ville, c'est-à-dire aux capitalistes d'une ville en gros. Et donc, Venise, depuis un siècle, vit aussi par l'argent de ceux qui y viennent, et je trouve que c'est une ville intéressante pour ça, parce que c'est vraiment une ville qui est presque muséalisée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, quand on va à Venise, j'y suis allé quelques fois bien sûr, c'est une ville que j'aime. C'est une ville que j'aime le matin, c'est une ville que j'aime incroyablement la nuit, parce que la nuit, il n'y a plus personne, parce que tout le monde est reparti, soit dans les hôtels moins chers à l'extérieur, soit dans les grands bateaux qui l'entourent. Et Venise la nuit, c'est un poème. Venise la nuit, c'est des rencontres incroyables. Venise la nuit, c'est... Il y a une... à ma connaissance, d'après ma mémoire, il n'y avait qu'une seule boîte de nuit à Venise. On n'imagine pas ça en Italie, ni dans aucun pays d'Europe, qu'il y ait une seule boîte de nuit, c'est même pas Vevey. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est une ville vraiment du jour. Et pour qui aime regarder la beauté, bah c'est une ville qu'il faut vivre la nuit et très tôt le matin. Quand le soleil se lève, il n'y a personne à Venise. Et dès le moment où on fait quelques pas en dehors des restaurants, des grands axes, il n'y a plus personne. Et cette dualité entre finalement la foule et en même temps le vide et l'absence, parce qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de Vénitiens à Venise non plus. Donc en réalité, quand il n'y a plus de touristes, c'est le vide. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup marqué parce que je trouve que c'est la même chose que la dualité entre ce qu'on se représente comme le visage d'un côté et ce qu'on se représente comme le masque. Et moi, ma thèse, c'est que tout ça est mélangé. Et moi, ma thèse aussi sur Venise, si je dois en formuler une, c'est que le tourisme de masse fait aussi partie de l'identité de Venise, comme d'ailleurs il fait partie de l'identité de Paris. J'avais une amie qui habite à Saint-Germain-des-Prés qui me disait, je parlais un peu des touristes, des Anglais, c'était pour rire, parce qu'il y avait une fois j'étais à côté de dame anglaise, et puis on parlait des touristes, puis elle me dit, mais Saint-Germain-des-Prés sans les touristes, il n'y a plus de Saint-Germain-des-Prés, ça n'existe pas, c'est fait par les touristes. Dès le moment, pendant le Covid, il n'y avait plus, c'est un quartier mort et ennuyeux.
Venise, le cadre de l'ouvrage La dernière chambre du grand hôtel Abîme de Quentin Mouron, 2024 aux éditions Favre. Alors Quentin Mouron, vous êtes un écrivain prolixe, vous en êtes au moins au 7e roman à peu près, si je ne me trompe pas, dont certains traduits en allemand, en anglais, vous fréquentez les salons littéraires. Comment sort de ce roman si particulier et insolite du grand hôtel Abîme ? Est-ce qu'on s'en remet ?
J'espère qu'on s'en remet. Le prochain a déjà été livré à l'éditeur. Ce sera un roman qui finit par une note beaucoup plus belle. Je ne sais pas encore son titre exactement, mais c'est quelque chose sur l'apaisement des relations amoureuses et sur la possible fin heureuse d'une relation amoureuse. Donc ça prend le contre-pied. C'est pas, je me renie pas. Je reprends beaucoup de choses que j'ai mis au point en termes de stylistique, sur plein de domaines, en termes de thèmes aussi. Mais j'essaye quand même d'en faire quelque chose de plus positif parce que La dernière chambre du grand hôtel Abîme, c'est un roman sombre. C'est pas toute ma vision du monde. Ça ne l'épuise pas. Et j'espère le prouver au prochain roman.
Alors, on se réjouit déjà, chers auditeurs, aux Radio Littératifs sur Radio Cité Genève, de vous lire dès la prochaine sortie de votre ouvrage. Mais en attendant, si vous avez envie de vous immerger dans des questions assez fondamentales sur l'homme, son image, le rapport aux réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi sur le couple et sur le sens du lien si noble qu'est l'amour, lisez La dernière chambre du grand hôtel Abîme, Quentin Mouron, édition FAF 2024. Merci infiniment.
Merci à vous, bonne soirée.
Le radiolittératif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres. Parfois même, le texte l'engloutit.